Ce matin, on l'a un petit peu abordé pendant la présidence tout à l'heure, on va parler du travail, grand sujet de préoccupation du quotidien. Hein. Nous sommes tous concernés, soit parce qu'on en cherche, parce qu'on aimerait bien travailler, soit parce qu'on en a et qu'on est surchargé. De manière générale, on n'est jamais content. Mais en tout cas, le travail, c'est quelque chose qui occupe une grande partie de notre vie. Hein. Sur notre carrière, aujourd'hui, on est au minimum à 42 ans de travail pour pouvoir avoir le droit de se reposer à notre retraite. Certains en sont très proches, n'est-ce pas Brigitte? Mais ça sera peut-être encore un petit peu plus pour certains d'entre nous. Minimum 42 ans, ça fait beaucoup. Une grande partie de notre vie, de nos journées, de nos semaines aussi. Hein. Nous sommes aujourd'hui à 35 heures. Il y a des époques où c'était 40, 50 heures par semaine. Nous avons la grâce d'avoir que, entre guillemets, 35 heures par semaine à faire. 5 semaines de congés par an. C'est beaucoup. On n'a pas tous eu, tout le monde n'a pas eu cette chance-là, cette grâce-là, par le passé. Mais en tout cas, quelque chose de très important, puisque ça fait partie de notre quotidien, de notre vie de tous les jours. Et la Bible nous enseigne, nous dit, que quoi que l'on fasse, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est dans Colossiens 3, au verset 17. Un peu plus loin, dans le même chapitre, il est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Colossiens 3, verset 23. En ce début d'année, après la pause des fêtes, on peut avoir l'impression que tout tourne autour du travail. On parle beaucoup de la loi travail ces derniers temps, de la mise en œuvre de cette loi travail, du chômage qui ne cesse de jouer au yo-yo, des objectifs de l'année, puisqu'on démarre, donc on commence à voir qu'est-ce que l'on doit faire tout au long de cette année. Certains qui débutent une nouvelle activité, d'autres qui en recherche, etc. Notre vie est rythmée par cette activité professionnelle. Elle influence notre quotidien, notre vie de famille, nos relations. Et donc c'est un élément central qu'il faut que l'on étudie à la lumière de la Bible. Alors, on va commencer par l'origine du travail. D'où vient ce travail et cette nécessité de travailler? Eh bien, comme tout ce qui est à l'origine, il nous faut remonter à la Genèse pour voir ce qu'il en est. Et donc, je propose que l'on lise dans Genèse, dans les trois premiers chapitres, on va lire quelques versets. Genèse chapitre 1. Facile, c'est au tout début de la Bible, c'est le commencement, c'est l'origine. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 25, Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Déjà, non, au tout début de la création, Dieu a créé le ciel et la terre, puis il a créé l'homme, et il a donné comme mission à l'homme de dominer sur tous les animaux de la terre, sur toute la création, les poissons, les oiseaux, le bétail, sur toute la terre, les reptiles, absolument tout. Et Dieu donne un travail à l'homme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. C'était ce que devait faire l'homme. Et il précise un peu plus. Au chapitre 2, verset 2, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Oui, des fois on oublie un petit peu ça, mais le jardin d'Éden, il ne s'agissait pas juste de ramasser les fruits, il devait le cultiver, il devait donc travailler. Hein ? Il y avait du travail déjà dans le jardin d'Éden. C'est pas seulement après la chute que le travail est arrivé. Il y avait le travail dès le jardin d'Éden, dès le commencement. Le travail était prévu par Dieu. C'était l'activité de l'homme au quotidien. L'homme devait cultiver le jardin d'Éden. Au verset 17, il dit à l'homme, donc là c'est après la chute, au chapitre 3, pardon, verset 17, donc l'homme va chuter. Il va manger de l'arbre interdit. Et Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Alors, de ces versets, tout début de la Bible, on peut distinguer déjà deux choses que la Bible nous enseigne sur le travail. La première, c'est que le travail est une bonne chose qui a été voulue par Dieu. C'était la mission de l'homme sur la terre, dans le jardin d'Éden, c'était de travailler, de cultiver le jardin. C'était son travail, sa mission. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que le travail est devenu une source de souffrance à cause du péché. Mais le travail existait avant, mais il n'était pas pénible. Et à cause du péché, le travail est devenu pénible. Donc la pénibilité du travail est une conséquence du péché, mais le travail est une bonne chose qui était voulue par Dieu. Le travail, c'est un mandat qui est confié par Dieu à l'homme. C'est ce que l'on voit en Genèse 1 et 2. Qu'on a vu, mais à cause de la chute, le travail est devenu pénible, ce qu'on a vu au chapitre 3. Mais on voit que Dieu lui-même a travaillé. Jésus le dit, dans Jean chapitre 5, verset 14, il est dit « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi, je travaille. » Donc, nous sommes appelés à travailler, mais Dieu lui-même nous a montré cet exemple. Il a travaillé, il a créé la terre, il continue à travailler. Jésus était sur terre, c'est bien après la création, et il est dit que Dieu travaille, Dieu le Père travaille encore jusqu'à maintenant, et Jésus travaille aussi. On a vu tout à l'heure au verset 28 de la Genèse, qui était dit, donner la consigne de remplir, assujettir et dominer la terre. C'est un appel pour l'homme à transformer le monde par son intelligence, son savoir-faire et son industrie. L'homme a été créé à l'image de Dieu et l'homme est appelé à donner à son activité un sens créatif. Il le plaça dans le jardin pour le cultiver. Nous comprenons que l'homme est le gérant de la création. C'est pourquoi le monde où l'homme vit porte la marque de son activité transformatrice. Il est là pour le cultiver, pour transformer cette terre où Dieu l'a placée. Et on doit le faire à l'exemple de Dieu. Dans Actes chapitre 20, verset 35, je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur, à donner qu'à recevoir. On est appelé à travailler. Et on est appelé à travailler pour pouvoir donner, pour pouvoir faire fructifier, pour pouvoir faire grandir cette terre. L'activité de l'homme reflète et imite celle du Dieu créateur. On le voit dans la création. La création, Dieu a travaillé pendant 6 jours pour créer cette terre. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et Dieu fait le parallèle dans les commandements. En Exode 20, dans les 10 commandements, il est dit, au verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce sont dans les 10 commandements, dans Exode 20, verset 8 au verset 10. Dans ce passage, dans ces 10 commandements, Dieu fait clairement le parallèle entre les 6 jours de la création et les 6 jours de travail pour l'homme. Et entre le repos de Dieu et celui de l'homme. Il est donc important de travailler, travailler 6 jours sur 7, d'après la Bible, et il est aussi important de se reposer après le travail. On ne se repose pas avant, mais après. Hein. C'est le 7e jour, le jour de repos. On commence par travailler. Mais on travaille à l'image de ce que Dieu a fait. Dieu a travaillé, il a créé. Il a créé toute son œuvre en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et il nous appelle à faire la même chose, à travailler 6 jours de la semaine et à se reposer le 7e jour. Et il est précisé, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Ça montre que le travail est une œuvre qui doit être accomplie. C'est même un commandement. Finalement, on pense, des fois on se dit, non mais le commandement c'est le sabbat, c'est de se reposer. Non, le commandement c'est de travailler 6 jours, de faire toute notre œuvre et de se reposer. Il ne faut pas prendre que la fin. Il y a le début d'abord. Avant le repos, il y a le travail. Il y a 6 jours de travail d'abord. Et il faut accomplir toute notre œuvre. Dans le Nouveau Testament, Paul écrit aux Thessaloniciens en condamnant la paresse et le désordre. Dans 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 13, il est dit « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » C'est l'apôtre Paul qui parle dans ce passage et il dit qu'il n'a pas cessé d'être à l'œuvre nuit et jour. Mais quand il dit à l'œuvre, il mélange à la fois le travail qui lui a permis de subvenir à ses besoins et l'œuvre pour le Seigneur. C'est d'ailleurs pour ça que c'était nuit et jour. Il était à l'œuvre pour l'évangélisation parmi eux, mais pour ne pas être au crochet, entre guillemets, de l'église de Thessalonique, eh bien, il travaillait également à subvenir à ses propres besoins pour pouvoir ne pas être aux dépens de l'église de Thessalonique et être un exemple à cette église-là, un exemple dans le travail, à accomplir toute son œuvre. Des fois, on se dit, oui, le travail, l'œuvre pour les croyants, ben, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est uniquement l'évangélisation. Non, l'œuvre qu'accomplit le peuple, c'est l'ensemble, c'est le travail et probablement l'évangélisation par le travail et aussi directement le travail dans l'église. On peut remarquer les parallèles entre vivre dans le désordre et manger gratuitement le pain de quelqu'un, ou vivre dans le désordre et ne pas travailler, et à l'opposé, manger de son propre pain en travaillant paisiblement et ne pas se lasser de faire le bien. Paul met en parallèle le fait de vivre dans le désordre et le fait de ne pas travailler, et le fait de faire le bien, d'être un acteur, un croyant bienfaisant, et de travailler pour se nourrir soi-même. Le travail, là, est mis en avant et montre qu'il est important à chacun de nous de travailler. Les Thessaloniciens avaient une culture grecque dans lesquelles le travail n'était pas forcément mis en avant. Les élites passaient leur temps à discuter dans les forums, en débat politique. Le travail, c'était pour les esclaves. Et je pense que certains, encore aujourd'hui, peuvent avoir cet exemple, prennent cet exemple en disant, ben, voilà, vous voyez, dans le passé, les Grecs, ils passaient leur temps en discussion au lieu de travailler, et donc, il faut prendre cet exemple-là pour aujourd'hui passer notre temps en loisir, en divertissement, plutôt que le travail. Il faut mettre l'accent sur le temps libre. Et de plus en plus, c'est un peu ce qu'on entend dans la société d'aujourd'hui. Il faut mettre l'accent sur le temps libre, plus que sur le travail. Mais la Bible, elle, nous met l'accent sur le travail. Et elle nous donne aussi un temps de repos. Il y a un temps pour tout, mais elle met l'accent sur le travail. Les Grecs pensaient que le travail était un mal à éviter si possible. Mais la Bible dit que le travail est quelque chose que nous devons accomplir. Certains Thessaloniciens pensaient aussi que comme le Seigneur allait revenir de manière imminente, et c'est le cas, il va revenir de manière imminente, nous devons nous y préparer, mais du coup, ils n'accordaient plus aucune valeur au travail terrestre. Ils disaient, ça sert à quoi de travailler, puisque le Seigneur va revenir peut-être demain, donc je ne vais pas me fatiguer à travailler pour rien. Et le Seigneur, lui, nous appelle à travailler au quotidien, pour montrer l'exemple. Et parce que peut-être aussi, il ne faut pas oublier que, comme dans le jardin d'Éden, l'homme était placé et avait du travail, pas pénible, mais avait du travail, probablement qu'au ciel, nous aurons aussi du travail, des choses à faire. Et c'est dans cet exemple-là que nous devons continuer ce travail-là. Pas forcément un travail pénible, mais nous devons travailler, nous devons avoir de l'activité. De nombreux versets dans la Bible nous indiquent l'importance du travail. Proverbe 20, verset 13. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. Proverbe 21, versets 25 à 26. Les désirs du paresseux le feront mourir car il refuse de travailler de ses mains. Tout le long du jour, il est la proie à la convoitise alors que le juste donne sans retenir. Proverbe 13, verset 4. Le paresseux éprouve des désirs mais n'arrive à rien alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Psaume 128, versets 2 à 4. Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits. Et autour de ta table, tes fils ressembleront à des plants d'olivier. Ainsi sera béni tout homme qui révère l'Éternel. Ecclésiaste 5, verset 11. Que celui qui va voler cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça, c'est Éphésiens 4, pardon, verset 28. Ecclésiaste, c'est « Doué le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. » J'aime beaucoup ce passage-là. Des fois, on regarde les riches, on se dit ils sont bien, ils ont tout. » Mais bon, Ecclésiaste nous dit « L'abondance du riche l'empêche de dormir, il n'a pas la conscience tranquille. » Et enfin, Proverbe 10, verset 4. « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main active enrichit. » On constate que beaucoup de ces versets lient le travail à la générosité, à la charité, à l'amour. On travaille pour pouvoir donner. C'est un témoignage d'amour. Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais dans tous ces passages, j'ai très souvent dit qu'on travaille pour pouvoir donner. C'est ça l'utilité du travail. C'est pas pour nous-mêmes. On travaille pour pouvoir être généreux. Et finalement, c'est un témoignage d'amour, le fait de travailler. En 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12, il est dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. » Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Voilà le témoignage d'amour fraternel que l'apôtre Paul donne aux Thessaloniciens. c'est de travailler paisiblement. Pour n'avoir besoin de personne. Et pour pouvoir partager avec les autres tout ce que l'on produit. Nous sommes donc appelés à être finalement altruistes. C'est-à-dire se soucier du bien d'autrui d'une manière désintéressée. On est appelé à travailler, non pas pour nous, mais pour les autres, pour faire du bien aux autres, pour subvenir aux besoins des autres. C'est extraordinaire. Et ce, particulièrement dans le travail manuel, qui est souvent mis en avant dans la Bible. On peut penser que Jésus a dû probablement consacrer une grande partie de sa vie à son établi de charpentier, dans la suite de son père, de Joseph. On voit dans l'Exode aussi que Dieu donnait de l'intelligence pour le travail manuel. En Exode 35, versets 30 à 35, il est dit « Et Moïse dit aux fils d'Israël, « Voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsaleel, et il a rempli d'esprit divin, d'habileté, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des combinaisons, pour travailler l'or, l'argent, l'airain, pour graver des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois de manière à exécuter toute espèce de travaux d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter toutes sortes de travaux de sculpture et d'art, pour broder et tisser la pourpre violette, la pourpre écarlate, le cramoisi, le lin, et pour exécuter toutes sortes de travaux et de combinaisons. » Dans notre pays, on a souvent tendance à voir l'enseignement dispensé essentiellement sur le savoir intellectuel et on pense à la connaissance. Mais l'intelligence n'est pas seulement la connaissance, c'est aussi le travail manuel. Dieu, là, a donné à ces hommes de l'intelligence pour savoir travailler manuellement. Et je pense que peut-être dans notre système scolaire, on devrait davantage remettre au goût du jour le travail manuel. D'ailleurs, selon les regrets des politiques, des fois, certains y reviennent en disant que c'est quand même important. Et c'est vrai que c'est important. Ça fait partie du travail, savoir toucher, valoriser les choses. Et je pense que c'est même primordial. Alors, on a déjà plus ou moins abordé cela, mais j'ai parlé de l'origine du travail. D'où vient le travail? Le travail, il vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu, dès l'origine, même si la chute l'a rendu pénible. Mais on pourrait dire, au-delà du témoignage, quel est l'intérêt du travail? Proverbe 16, verset 3 nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. » Et le psaume 127, verset 1 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Nous avons ici plusieurs exemples d'activités, de travail. Recommande tes œuvres, on pourrait dire tout notre travail, que ce soit de bâtir, que ce soit de garder, ce sont deux métiers différents, et bien si on ne le fait pas en se confiant à l'Éternel, notre travail est vain, il ne sert à rien. En effet, c'est Dieu qui nous a confié cette mission de travailler, et on doit la faire pour Dieu. Comme pour le Seigneur, toute chose comme pour le Seigneur. Et on doit confier aussi notre travail du quotidien à Dieu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un travail directement pour l'Église qu'on ne doit pas confier à Dieu notre travail. Quel que soit notre travail, nous sommes appelés à le remettre entre les mains de Dieu pour l'accomplir parfaitement, pour l'accomplir selon sa volonté. Et ainsi peut-être être un témoignage autour de nos collègues. Même si ce n'est pas un projet pour l'Église, il m'arrive de prier pour que le Seigneur me guide dans les projets que j'accomplis dans mon lycée pour les élèves. même si ça n'a rien à voir avec l'Église, il est important que Dieu dirige ces choses-là. Je demande à Dieu de m'indiquer ce que je dois faire, de me diriger dans mon travail. Et c'est important que chacun de nous, eh bien, à notre quotidien, on sache remettre notre journée de travail et ce que nous accomplissons à notre travail entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui doit nous diriger, c'est Dieu qui doit nous guider dans notre travail et qui doit amener à bien chaque œuvre que l'on accomplit dans notre travail, afin d'être un témoignage. Nous sommes tous appelés à être des témoins, là où Dieu nous a placés. Et si Dieu nous a placés dans un travail particulier, c'est pour que nous soyons un témoignage à cet endroit-là. Et comment être un témoignage ? Eh bien, en appliquant, en s'impliquant dans notre travail, en le faisant comme pour le Seigneur, comme si c'était le Seigneur notre patron, notre autorité. Le système libéral est souvent centré sur lui-même. On regarde l'homme, le service de l'homme, la loi du marché, la productivité, l'efficacité, les performances, le rendement. Tout cela nous tourne sur nous-mêmes. C'est la compétition, savoir qui sera le plus fort. Mais nous, notre objectif de travail doit être de servir le Seigneur. On ne doit pas chercher à être plus fort que notre collègue, meilleur que notre collègue, mais on doit chercher à servir à travers notre travail, à aimer notre prochain, à aimer notre collègue, ne pas voir notre collègue comme une ressource humaine qui complète les ressources financières, les matières premières, etc., ou ne pas voir le client comme un simple consommateur, mais le voir comme quelqu'un que Dieu a envoyé, a placé parmi nous, à notre travail, pour qu'on prenne soin de lui. On ne sait peut-être pas tout ce qu'il a besoin, mais Dieu nous a placés là pour prendre soin de lui, pour prendre soin de notre collègue, pour l'aider, pour travailler pour lui, et pas pour nous. Parce qu'on a vu que dans le travail, l'origine du travail, le travail est pour nous donner les moyens de donner. Pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Nous travaillons pour les autres. Et dans notre travail, il ne faut pas nous laisser avoir, entre guillemets, par le système qui veut qu'on travaille toujours pour être mieux, nous, mais nous devons travailler pour pouvoir toujours plus donner aux autres. Et ainsi, Jacques nous dit, au chapitre 2, versets 1 à 13, un verset en particulier, « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. » Le travail est une bonne chose, mais il ne faut pas regarder à des personnes, est-ce que ah, celui-là c'est le patron, celui-là il a tel rôle, etc. Non, on ne va pas regarder aux personnes. Le Seigneur nous a confié un travail, nous devons l'accomplir comme si c'était pour lui-même, et pas pour notre patron qui n'est pas très sympa, ou pour ce collègue qui ne fait rien. Non, non, on fait tout cela pour le Seigneur. Qu'importe les circonstances qui sont autour de nous, qu'importe les personnes qui sont autour de nous, nous n'avons peut-être pas la grâce d'avoir des collègues croyants autour de nous, mais nous sommes placés là pour témoigner, pour travailler pour eux. Et ainsi accomplir le mandat que Dieu nous a donné de travailler avec amour et respect du prochain, envers qui on pourra témoigner. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le mot « métier », ça vient du latin « ministerium », ce qui veut dire « service ». Vous avez donc un service à accomplir. Votre service, il est de travailler, d'avoir un métier, un travail. Et c'est nous accomplissons notre service pour le Seigneur. Nous souhaitons tous, généralement, avoir un service pour le Seigneur. Eh bien, je vous le dis, nous sommes tous à temps plein pour le Seigneur. Certains sont à temps plein pour l'Église, mais nous sommes tous à temps plein pour le Seigneur. Ce n'est peut-être pas tous pour l'Église locale, mais c'est tous pour le Seigneur ce que l'on fait. Tout travail est pour le Seigneur. Nous sommes tous à temps plein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul dit « Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et c'est une joie que de travailler pour le Seigneur. mais il faut aussi penser au repos. On doit travailler, on doit aussi savoir se reposer. Il ne faut pas faire du travail une idole, ne pas devenir workaholic, travailleur dépendant. Le repos nous garde de la tentation de tout attendre du travail. Le travail n'est pas tout. Et dans les commandements du Seigneur, il y avait bien les 6 jours dans lesquels on doit travailler et le 7e jour dans lequel on doit se reposer. Il y avait d'autres repos qui étaient commandés. En dehors du sabbat, il y avait aussi le jubilé, une année entière où on devait se reposer, où on devait reposer la terre, on devait rendre les choses. C'est une nécessité et un droit. Parce que nous devons aussi témoigner de l'amour, prendre soin de notre famille, avoir un certain équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et ne pas croire que l'on est indispensable. Si on se met trop dans le travail, on pourrait avoir l'orgueil de croire finalement qu'on est indispensable, que tout dépend de nous. Le Seigneur bénit notre travail et donc on pourrait croire que c'est nous finalement qui réussissons. Pour nous garder de cet orgueil-là, il faut savoir avoir l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Le travail, c'est que ce que le Seigneur nous a confié. La réussite dans le travail, c'est que le Seigneur nous permet de réussir. Et ne pas se consacrer entièrement et uniquement dans le travail nous évitera ce travers de croire que le travail est pour nous-mêmes. De tirer quelques gloires pour le travail. Clémenceau a dit « Les cimetières sont pleins de gens indispensables. » Effectivement, on n'est pas indispensable. On est juste un acteur que le Seigneur utilise pour travailler, pour son œuvre. Enfin, je pense aussi à d'autres formes de travail. L'éducation des enfants, le travail bénévole, ce qui est souvent le travail de la femme à la maison. Est-ce qu'il est sans valeur parce qu'il n'est pas rémunéré? Est-ce que le travail se mesure au salaire qu'il génère, au fort salaire ou un salaire nul? Non, comme on vient de le voir, je pense qu'on peut très facilement répondre à cette question, à cette remarque-là. C'est l'action de travailler qui est importante. C'est pas le fait qu'il rémunère. C'est le fait d'avoir une occupation, et une saine occupation. On l'a vu tout à l'heure, Proverbe 14 disait « Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. » C'est-à-dire, si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si on ne travaille pas, si on n'a pas une activité, eh bien, on finit par avoir des paroles légères, des paroles en l'air, qui ne mènent qu'au désordre. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe 12. Et tout à l'heure, quand on lisait dans 2 Thessaloniciens, où l'apôtre Paul encourageait à travailler et à ne pas être à la charge des autres, au verset 11, on l'a lu, il me disait particulièrement « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, ne travaillent pas, mais qui s'occupe de futilité. » Et je pense que c'est un des grands dangers aujourd'hui de ceux qui ne travaillent pas, eh ben, c'est de s'occuper de futilité. L'activité nous garde dans le service pour le Seigneur. Lorsqu'on manque d'activité, eh ben, on va s'occuper des futilités. Et beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui, pensent par exemple que la femme ne doit pas travailler, qu'elle doit rester à la maison, s'occuper du foyer des enfants. Moi, personnellement, je pense qu'on oublie qu'il y a eu une époque où la mère au foyer, c'était un véritable travail, très difficile, où il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, peut-être bien plus difficile encore que ce que faisait le mari à son travail. Mais aujourd'hui, entre l'aspirateur, le lave-vaisselle, le lave-linge et notre robot ménager, le temps est dégagé. Et pour la personne qui est au foyer, et il faut que ce soit du temps pour passer avec la famille, ou pour une activité en tout cas, mais pas du temps pour s'occuper de futilité. Et je pense qu'un des dangers qui guette des fois certaines familles, l'accent de l'activité, ben c'est passer son temps, aller sur Internet, regarder des vidéos qui ne servent à rien, aller regarder les réseaux sociaux et finalement provoquer de la discorde. Parce qu'on va s'occuper de choses qui ne nous regardent pas, on va aller consulter à droite et à gauche qu'est-ce qui se passe et s'occuper de ce qui ne nous regarde pas. Alors que si on avait notre temps qui était occupé dans le service, dans le travail peut-être bénévole, hein, beaucoup de personnes, je ne suis pas contre les mères au foyer, hein, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a beaucoup de mères au foyer qui ont des activités bénévoles, qui s'occupent, hein, parce que ça leur permet, et c'est une bonne chose, une jeune saine. Mais ce qui n'est pas bon, c'est le fait de ne pas avoir d'activité et du coup de s'occuper de choses qui ne nous concernent pas. Et ça provoque le désordre parce que le travail, l'occupation, le travail même bénévole, est une chose qui est voulue par Dieu. Le travail est important. Et nous avons tous notre part de travail à accomplir. Nous avons aussi notre repos, comme je l'ai dit, mais on a notre part de travail à faire qui est importante, tout aussi importante. Et j'ai envie de dire, là j'ai parlé du rôle de la femme, mais l'homme c'est pareil, hein, parce que le travail de l'homme aujourd'hui est beaucoup moins pénible qu'il y a quelques années. Il est moins long, on ne fait que 35 heures, il y a moins de difficultés, 39 heures pour certains, mais enfin c'est quand même beaucoup moins qu'à une certaine époque. Et le danger guette tout autant les uns, ceux qui travaillent à la maison, que ceux qui travaillent dans leur métier, de s'occuper de futilité. Parce que ces futilités, elles sont à portée de main. Hein. Le smartphone, il est à portée de main. Malheureusement, ça peut être une futilité très rapidement. Parce que très facilement, on peut aller s'occuper de quelque chose qui n'est pas de notre travail, qui peut nous détourner de notre occupation. Ou les mails, c'est tellement facile, même au travail, même ceux qui sont dans les bureaux. On n'a peut-être pas un travail très pénible, mais on peut facilement dériver vers des futilités si on ne se concentre pas sur notre activité. Et combien facilement on se laisse entraîner vers ces futilités-là. Et que le Seigneur nous garde de travailler, de bien accomplir notre travail. Et c'est pour ça qu'il est important de remettre notre travail quotidien à Dieu, pour qu'on l'accomplisse comme si c'était pour lui. Non pas la peur d'aller consulter nos messages parce qu'on a peur que le patron voit ça, mais parce qu'on ne va pas consulter nos messages parce qu'on veut travailler comme pour le Seigneur. Et que si on voulait travailler pour le Seigneur, faire ça pour lui, ce n'est pas par peur du patron qu'on va bien travailler, mais c'est par plaisir, parce que l'on veut accomplir notre travail comme pour le Seigneur. Ce n'est pas du tout la même objectif. Et ça nous évitera de rentrer dans bien des histoires que d'être concentré dans le travail plutôt que de s'occuper de ces futilités-là. En conclusion, je rappellerai que le travail est un bienfait établi par Dieu. C'est un travail qui existe dès la création, que nous aurons probablement encore au ciel. Nous devons donc pratiquer le travail comme une bénédiction venue de Dieu lui-même. Et cela doit se voir au quotidien, même si notre travail est peut-être une activité pénible. Je ne dis pas que le travail est forcément facile, la conséquence du péché est là, le travail est pénible, mais nous devons l'accomplir comme pour le Seigneur. Et soyez rassurés, aussi le travail ne sera plus pénible, nous n'aurons plus les conséquences du péché. Même si nous continuerons à travailler. L'homme tente d'ailleurs d'effacer cette conséquence du péché. Il tente d'effacer la pénibilité du travail, et ils sont encore plus dans le péché parce que lorsqu'il efface la pénibilité du travail, il part dans les futilités. Nous croyants, dont le péché a été effacé, nous devons montrer ce qu'est le travail sans péché. Le travail sans péché, c'est le travail dans l'amour. Le travail pour le Seigneur et pour sa gloire. Et ce n'est pas ne plus travailler pour faire des loisirs. Effacer les conséquences du péché, ce n'est pas aller dans les futilités, mais c'est travailler dans l'amour. Et donc je vous souhaite qu'en ce jour de repos, dernier jour de la semaine. Enfin, là, on est un petit peu décalé, on est le premier jour de la semaine. Mais que nous mettions à profit ce jour de repos pour préparer toute notre semaine de travail par la prière, par la lecture de sa parole, afin d'accomplir une semaine de travail pour le Seigneur.